À quoi tu penses?
Tu sais.
Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible.
C'est monstrueux.
Les étoiles en plus.
Ah ouais?
Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9.
Bonjour, bienvenue dans votre magazine quotidien composé de découvertes musicales, des chroniques de nos partenaires, de vos sorties à Poitiers et ses environs et surtout de rencontres autour de l'actualité. Aujourd'hui, on va parler vivre ensemble en seconde partie d'émission, mais aussi engagement dans la recherche médicale. Et puis, on découvre une nouvelle couleur dans la prévention, le vert, en compagnie de Dr Sarah Etoiti, qui est médecin coordinateur territorial au Centre de coordination Nouvelle-Aquitaine de dépistage des cancers. Bonjour.
Bonjour.
Et Maëlle Petit, qui est sage-femme en libéral. Bonjour.
Bonjour.
Merci à toutes les deux d'être là pour parler cancer du col de l'utérus à l'occasion de l'ouverture de juin vert. On connaissait octobre rose, mars bleu et là c'est juin vert. Pourquoi continuer à associer des mois, des couleurs? C'est comme ça que ça parle le mieux aux gens peut-être?
Oui, en fait, ça nous permet d'avoir un mois de sensibilisation, de mettre le focus sur une thématique, d'accentuer que tout le monde parle de la même chose. Alors, le petit bémol, c'est pas qu'en juin qu'on se dépiste, c'est toute l'année, mais c'est le mois pour en parler haut et fort.
Donc, ce cancer du col de l'utérus, en fait, juin vert, ça existe déjà depuis 2010, hein, mais c'est peut-être un peu moins connu que les autres actions. Comment ça se fait ?
Alors, Octobre Rose est très connu. D'abord, ça a plus de 30 ans maintenant. Enfin, ça va avoir 30 ans même. Mais il y a surtout un portage associatif extrêmement fort, qui est bien ancien, maintenant bien ancré, bien identifié. Et puis, c'est un cancer qui est accompagné de beaucoup d'associations, même de soins de support, etc. Le cancer du col de l'utérus, effectivement, et, ou le cancer colorectal, qui a sa couleur bleue au mois de mars, n'ont pas, pour l'instant en tout cas, autant ces portages associatifs. Pour autant, alors on peut aussi dire que pour le cancer du col de l'utérus, il est moins fréquent que le cancer du sein. Hein, ça reste le 12e cancer féminin. Toujours est-il qu'on devrait être en capacité de l'éradiquer, qu'on peine encore puisqu'on a encore trop de décès en France. Donc on a encore besoin d'insister et on aimerait que ça suive sur juin vert et que la couleur commence à prendre. On aimerait qu'elle prenne, pas autant qu'octobre rose parce que la barre est trop haute pour l'instant, mais que ça prenne de plus en plus.
Alors pourtant, on a l'impression que ce soit les sages-femmes ou les gynécologues, il y a des dépistages quand même qui sont faits régulièrement?
Oui, bien sûr, c'est effectivement quelque chose qui est fait de manière assez répétée, puisque au tout démarrage, on est censé débuter les frottis à 25 ans, faire le second une année plus tard, puis tous les 3 ans jusqu'à 30 ans, et ensuite tous les 5 ans après 30 ans. Il n'empêche qu'il y a quand même une population qui va être beaucoup moins dépistée, et c'est souvent celle qui est au-delà de la ménopause, où les femmes pensent que du coup, à partir du moment où elles n'ont plus besoin de leur sage-femme ou de leur gynéco pour le suivi de grossesse, elles n'ont plus forcément besoin de se faire suivre. Or, elles ont tort, c'est justement un moment où on a encore besoin de se faire suivre, en tout cas pour le cancer du col de l'utérus, jusqu'à 65 ans.
Est-ce qu'il y a comme ça un peu des fausses idées, oui, vous vouliez compléter, Sarah et Toiti?
Alors, je crois que ça, c'est une des plus fortes. Hein. C'est effectivement, on constate statistiquement une baisse des dépistages à partir de 50 ans. On sent que les femmes s'inscrivent dans autre chose. Alors, une idée reçue qu'il va falloir marteler, nos jeunes vaccinés d'aujourd'hui, qu'elles n'oublient pas que, bien qu'on soit vacciné, il faut se faire dépister. On a, alors, autour de la cinquantaine, on va avoir « je suis ménopausée, je n'en ai plus besoin ». J'ai plus trop de rapports sexuels, j'en ai plus besoin. J'ai le même mari depuis 25-30 ans, j'en ai plus besoin. Ou à l'inverse, je suis célibataire, j'en ai plus besoin. On va avoir comme ça un panel, alors, de fausses excuses, peut-être, ou en tout cas de croyances qui sont bien ancrées, qu'il faut qu'on arrive à combattre.
Alors, est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce cancer? Comment il arrive? Est-ce qu'il y a des prédispositions?
Alors déjà, on peut dire que c'est un cancer d'évolution très lente. Ça, c'est important pour comprendre pourquoi on peut intervenir en dépistage organisé. Après, et ça aussi, c'est assez peu connu des femmes, lorsqu'on fait son frottis, en fait, on cherche une chose, c'est un virus. Le HPV, Human Papilloma Virus, qui est extrêmement fréquent, qui est, alors, pour ceux qui connaissent ou qui connaissaient en tout cas, était assimilé uniquement à la vie sexuelle. Alors certes, c'est plutôt un rapport qui se transmet lors des rapports sexuels, dont le préservatif ne protège pas à 100%, loin de là. Mais c'est avant tout un virus extrêmement présent. 8 femmes sur 10, en fait, vont le croiser au cours de leur vie sexuelle. Heureusement, chez 90% d'entre elles, il va repartir. Donc, il n'y a que, finalement, un petit panel de femmes chez qui il va s'installer. Mais lorsqu'il s'installe, il peut former une petite verrue. Et cette petite verrue, c'est là où on peut agir avant qu'elle ne devienne un cancer. pas, Maëlle, si tu souhaites compléter.
Non, je pense que tu as été assez exhaustive.
Justement, l'une des armes maintenant donc, qu'on a contre ce cancer du col de l'utérus, c'est le vaccin. Voilà. Comment ça se passe au niveau du vaccin aujourd'hui ?
Alors, la vaccination, elle est aujourd'hui pour toutes, pour les filles et les garçons. Je cherchais comment le dire pour qu'on entende bien que c'est aussi pour les garçons à partir de 11 ans. Recommandée donc sur deux injections. La vaccination n'est pas obligatoire, mais elle est fortement recommandée. Une première injection et une autre à 6 mois pour une vaccination qui sera à vie. On a en France sûrement fait l'erreur de ne pas inclure les garçons au tout début, de ne pas faire assez de communication. Aujourd'hui, on a un taux de vaccination qui est trop bas. Alors, il remonte. Il y a eu des actions dans les établissements scolaires cette année auprès des jeunes de 5e. Donc, je crois que les résultats sont plutôt satisfaisants. Maintenant, si on s'y prend bien et si on y va suffisamment tous ensemble, l'objectif, c'est quand même de l'éradiquer, ce cancer. En Australie, pour prendre ce modèle, ils sont en train de l'éradiquer. Ils ont vacciné très tôt, tout de suite. Garçons et filles, on arrive à l'éradiquer. Enfin, moi, je trouve ça extraordinaire de pouvoir dire on est capable d'éradiquer un cancer. Vaccinons nos ados.
Juste un peu des chiffres. Combien de personnes souffrent d'un cancer du col de l'utérus et combien de décès ? Est-ce qu'on a un peu ces chiffres-là ?
Alors, on a en France, on a encore 3000 diagnostics de cancer par an, de cancer du col de l'utérus par an. C'est beaucoup. Et on a un peu plus de 1000 décès par an. Encore.
Et ça ne baisse pas. Ça pourrait ne plus exister.
Et ça, on pourrait être quasiment à zéro parce qu'il y a toujours un petit pourcentage. Mais
l'idée, c'est aussi de se dire que la vaccination, c'est un geste qui est à la fois pour soi, mais à la fois altruiste, puisqu'on parlait tout à l'heure de la vaccination des garçons. C'est à la fois pour leurs partenaires féminines, mais aussi pour ceux qui auront des partenaires masculins, pour se protéger d'autres cancers que celui du col de l'utérus, avec tous les cancers qu'il peut y avoir au niveau oropharyngé. Et je pense qu'effectivement, quel que soit le sexe, à partir du moment où on sait que c'est une maladie qui pourrait tout à fait disparaître et qui pourrait limiter le nombre de cancers aujourd'hui en France, quand on a la possibilité de prévenir, autant le faire plutôt que guérir.
Vous qui êtes au contact des patientes, est-ce que les mamans, les jeunes filles, est-ce qu'elles entendent cet appel à la vaccination généralisée ?
Alors, tout dépend beaucoup de la culture aussi de chacun. J'ai la sensation que les mères sont beaucoup plus ouvertes aujourd'hui puisqu'elles ont moins cette étiquette de la sexualité, ce qui posait un peu problème, j'ai l'impression, il y a quelques années, quand on a commencé justement à évoquer la vaccination de leurs enfants. Elles se sont dit « Oui, mais moi, ma fille, elle n'a pas encore de sexualité, on ne va pas la vacciner pour quelque chose où peut-être... dans leurs idéaux, elle aura peu de partenaires, plutôt à partir de tel âge. Et donc, elles étaient... j'ai l'impression que c'était surtout les mamans, moi, que j'avais en consultation, parce que j'ai un public quasi exclusivement féminin au cabinet en tant que sage-femme. Mais j'avais vraiment la sensation que c'était plus cette barrière de se projeter dans une sexualité chez des ados ou des pré-ados. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, le message passe beaucoup mieux. Et c'est surtout que moi, quand j'ai en consultation les jeunes filles qui viennent pour des douleurs de règles ou des questions autour de la puberté, et pas forcément de la sexualité et de la contraception, ça permet de venir les questionner, elles, sur ce qu'elles aimeraient faire pour elles, ce qu'elles aimeraient mettre en place pour se protéger, et donc de responsabiliser aussi l'enfant qui, lui, parfois va motiver son parent à se faire vacciner.
Et alors, si jamais on contracte ce cancer, est-ce que c'est un cancer qui se soigne ? De quelle manière ?
Alors, c'est un cancer qui se soigne, et comme tout cancer, ça va quand même dépendre de son stade d'évolution. Le traitement, lorsqu'on est au stade du cancer, parce que quand on trouve une lésion précancéreuse, on fait ce qu'on appelle une conisation. Donc là, c'est-à-dire qu'on va retirer une petite partie du col de l'utérus, mais une petite partie, l'utérus va quand même garder, en quelque sorte, son intégrité. Ça, c'est le stade précancéreux. Lorsqu'on est au stade de cancer, la quasi-totalité de la prise en charge thérapeutique va d'abord consister par une chirurgie, hein, où il faudra... dans la très grande majorité des cas, faire une hystérectomie, donc enlever l'utérus. Après, il peut y avoir des traitements complémentaires. Tout va dépendre, en fait, du stade de découverte.
Et alors, aujourd'hui, en termes de sensibilisation, de vaccination, est-ce que là aussi, on a un peu des chiffres ? Est-ce que ça progresse lentement ?
Alors, moi ici, je n'ai pas les chiffres. Je sais que ça progresse parce que je les ai vus passer, grâce notamment aux actions qui ont été faites dans les établissements scolaires. Mais là, c'est plus, je pense, l'ARS, l'Agence régionale d'hospitalisation, qui pourrait vous donner les chiffres actuels de la vaccination.
Et est-ce qu'il y a des symptômes pour lesquels il faut s'inquiéter et consulter une sage-femme ou un gynécologue parce que ça pourrait être des symptômes liés à ce cancer ?
Des saignements qu'on peut avoir et qui sont inexpliqués, des douleurs pelviennes, des douleurs dans le bas du ventre. Alors souvent, c'est effectivement sur les lésions précancéreuses qu'on arrive à visualiser les choses. Donc d'aller faire un dépistage avec un professionnel de santé, une sage-femme, un médecin généraliste, un gynéco, de pouvoir justement examiner une fois par an le col de l'utérus avec un spéculum et donc de pouvoir prendre les lésions avant qu'il y ait des symptômes.
Parce que ces symptômes-là, ils ressemblent à d'autres pathologies et c'est difficile de, juste avec des symptômes, de se rendre compte que ça peut être un cancer.
Tout à fait. Et puis, on peut surtout ne pas avoir de symptômes, ce qui est quand même une grande majeure partie des cas sur les lésions précancéreuses. Donc, quand il y a des symptômes, c'est déjà souvent un peu tard.
Et quelles sont les actions qui sont prévues pendant ce mois juin vert ?
Mais alors, janvier n'est pas encore très, très connu, donc on n'a pas la pléthore d'actions d'Octobre Rose. On a plusieurs exemples. Alors, je vais citer, alors, c'est sur Châtellerault, par exemple, la CPTS qui fait des actions dans certains quartiers et a développé des accès privilégiés à des créneaux de consultation auprès de sages-femmes. On va avoir des infirmières de santé au travail aussi qui vont faire un certain nombre d'actions de sensibilisation en entreprise sur la pause méridienne. Nous, on a, alors, dans la Vienne, il y a maintenant 10-15 jours, organiser une soirée de formation auprès de plusieurs professionnels de santé. On était 80 au final, pour que tout le monde soit bien à jour, soit bien informé. Et par exemple, sur cette soirée, on a essayé de se mettre à jour sur un nouvel outil qui est arrivé, qui s'appelle l'auto-prélèvement, qui existe que depuis quelques mois, qui va permettre aux femmes pour qui l'examen gynécologique est vraiment trop compliqué. Je pense à des femmes qui auraient vécu des traumatismes antérieurs, des femmes pour qui l'examen gynécologique est vraiment difficile. Elles pourraient bénéficier de cet auto-prélèvement qui leur permet. Alors, il faut qu'elles aient plus de 30 ans, je précise, n'est accessible qu'aux plus de 30 ans, qui leur permettrait elles-mêmes dans les toilettes de faire un prélèvement avec une sorte de grand coton-tige pour qu'on puisse au moins savoir si le virus est présent. Donc ça, c'est une nouveauté dont il va falloir qu'on apprenne à se servir et surtout cibler les femmes qui en ont l'indication.
Pour vous, c'est justement un outil intéressant pour certaines patientes ?
Je pense que c'était indispensable pour faire un certain rattrapage des populations qui ne vont pas consulter ou qui se sentent en difficulté et qui ont la possibilité d'aller faire cet examen-là. J'avoue qu'effectivement, en tant que sage-femme, on a des consultations qui sont quand même relativement longues, avec un lien de confiance avec le patient, ce qui est le cas aussi beaucoup de gynécologues et de médecins généralistes. Je pense que la place de sage-femme est à la fois aidante parce que du coup, on a des consultations qui vont être plus longues, mais surtout un suivi qui va être souvent plus long au travers de la grossesse, au travers de la rééducation périnéale, on va les voir régulièrement, une fois par semaine souvent, ou une fois par mois dans le cadre de la grossesse. Et donc il y a un lien de confiance qui s'établit et souvent celles qui n'étaient pas trop d'accord de se faire examiner à la base finissent par dire bon bah finalement je suis d'accord de faire l'examen. Et l'idée c'est vraiment d'avoir toujours ce respect du rythme de la femme, de sa pudeur, de la difficulté qu'elle peut avoir de donner accès à son corps et de se dire qu'en fait si c'est pas possible on a d'autres possibilités surtout à partir de cette tranche d'âge, à partir de 30 ans, de rattraper en fait ces femmes qui ne feraient pas le suivi du fait de certains freins qui seraient levés en fait par l'auto-prélèvement.
Un grand merci à toutes les deux, donc docteur Sarah Etouati, médecin coordinateur territorial pour le Centre de coordination Nouvelle-Aquitaine de dépistage des cancers, et Maëlle Petit, sage-femme libérale, donc d'être venue nous parler de juin vert pour le dépistage du cancer du col de l'utérus. Merci à toutes les deux.
Merci.
On continue avec un peu de douceur et November Ultra, un extrait de son dernier album.
Christmas at your house, making fuzzy angels in the snow. My name sounds better in your mouth, warm from coffee under the mistletoe. Oh, cars and buses take me places. But I miss home. Trains and faces, smiles are fading. I just miss home. Nowhere was I alone now. December never came. I realize I'm alone now, but they all think I'm the same. Watching Julie Andrews on the hill, I feel much better when you laugh. In the echo, life and time stand still. I keep changing, but nothing changes. I just miss. Who am I chasing? Am I chasing? Oh.
Pauline s'est rendue pour nous au CHU de Poitiers lors de la présentation de l'opération Sport et Collection. Elle était en reportage sur place. Ça, c'est la musique, je crois qu'on va entendre un petit peu plus tard. On devrait retrouver Pauline pour son reportage.
Je me suis rendu aux usines de Ligugé.
Non, ça c'est Colin.
Dans ce cadre calme de cette friche industrielle, se tient un petit marché tous les vendredis soirs, organisé par l'association AY.
30 ans, des dizaines de chercheurs qui ont bénéficié du soutien de l'association Sport et Collection, des équipements exceptionnels.
Voici le bilan d'Anne Costa, la directrice générale du CHU de Poitiers, lors de la conférence de presse pour présenter les 4 nouveaux projets de recherche sur le cancer qui vont bénéficier des dons versés par Sport et Collection. L'association, en collaboration avec le Rotary Club Sud-Vienne, organise chaque année une manifestation automobile, les 500 Ferrari contre le cancer, sur le circuit du Val-de-Vienne, au profit de la recherche sur le cancer. Ces dernières années, les dons versés par Sport et Collection au CHU de Poitiers ont permis de financer de nombreux travaux de recherche en cancérologie ainsi que l'acquisition d'équipements. Guillaume Davy, manipulateur d'électrocardiologie dont le projet est de développer un protocole pour détecter le cancer du sein à un stade précoce, nous explique l'importance de ces fonds.
En termes de fonds, on a besoin d'argent pour former, pour créer une formation, pour aussi pour l'achat d'un échographe qui est particulier aussi, qui servira aussi pour la vie de tous les jours, puisqu'il est plus performant en termes de détection, mais qui permettra aussi d'ouvrir cette voie liée à la recherche. Voilà. Et puis après, il y a tout ce qui est des financements plus administratifs, entre guillemets, avec des assurances, ou ce genre de choses.
Guillaume Davy nous explique aussi l'importance de la recherche de son projet de détection du cancer du sein.
On essaye toujours de mieux soigner en fait. Et donc on essaye de trouver des choses qui permettent d'améliorer nos pratiques. Trouver les choses, c'est intéressant, mais il faut pouvoir le prouver en fait. Et c'est là où la recherche nous aide, c'est pouvoir essayer de répondre à une question, mais de manière méthodologique pour que les réponses qu'on va obtenir puissent être fiables. Pour les patients, oui, ce qu'on espère toujours, c'est pouvoir améliorer la participation au dépistage du cancer du sein, puisque si on améliore leur participation, bien en fait, on les soigne mieux, parce qu'on sait que le dépistage, ça marche.
Le docteur Camille Evrard, médecin en oncologie médicale, travaille depuis plus de 10 ans sur sa thématique de recherche qui est l'ADN circulant tumoral, et son projet sur l'instabilité des microsatellites, sur lequel elle travaille depuis plus de 2 ans, bénéficiera lui aussi de la donation de spores et collections.
C'est des choses qui sont assez longues à réfléchir, à monter et puis à trouver de l'argent après pour pouvoir avancer et également à avoir les patients parce que c'est une petite niche de la population atteinte d'un cancer du côlon sur laquelle je travaille. Donc voilà, c'est des choses qui prennent vite du temps.
Un processus long qui interpelle, innove et permettra de mieux soigner les patients atteints d'un cancer colorectal.
C'est vraiment innovant, pour ça qu'on est très content. Alors je dis on parce que je travaille sur ce projet avec le professeur David Toujeron, qui est hépato-gastro-entérologue ici, qui fait de l'oncologie digestive. L'occasion de parler du projet en congrès, dans des congrès nationaux, voire internationaux, et on a eu beaucoup de questions, beaucoup de sollicitations sur la technique, et donc on y croit, ça va changer les pratiques, puisque cette technique-là pourrait vraiment nous aider à monitorer les traitements par immunothérapie. Quand est-ce qu'on peut arrêter? Quand est-ce qu'au contraire il faut continuer, même si on a l'impression au scanner que la tumeur a diminué? Voilà, on espère vraiment apporter une plus-value avec cette nouvelle technique innovante.
Après le docteur Evrard, nous avons rencontré un généticien clinique, le docteur Xavier Leguillou, dont le projet de recherche n'est pas moins innovant que celui de ses collègues.
La raison pour laquelle, à mon avis, ce projet a été retenu, c'est un projet qui lie de la médecine et de la nouvelle technologie. On espère un bond technologique en fait, avec des outils d'intelligence artificielle pour aider dans la décision médicale et pour aider en fait, dans l'espérance de vie, pour améliorer l'espérance de vie, la qualité de vie des patients à court ou moyen terme. En fait. Donc voilà, c'est vraiment l'espoir d'un bond technologique.
Un projet pour développer des modèles d'intelligence artificielle afin de prédire l'aspect génétique des tumeurs cérébrales dont les fonds vont accélérer le processus de recherche.
Sans ces fonds, il aurait fallu 4 à 5 ans pour pouvoir faire la même chose et mobiliser des équipes qui ont déjà du travail sur d'autres projets de recherche. Moi, ça fait presque un an que je travaille sur ce projet-là en amont, et ce qui a permis ce financement. Et en fait, maintenant, c'est une accélération qui est attendue dans le projet.
C'est une avancée qui apparaît comme centrale pour détecter les tumeurs cérébrales chez les patients.
L'impact attendu, en fait, il est majeur en termes de temps de prise en charge. Une tumeur cérébrale, certaines d'entre elles, en tout cas, peuvent être très agressives, c'est-à-dire qu'en quelques semaines, quelques mois, le pronostic du patient va se dégrader énormément. Et donc, il y a un enjeu à pouvoir les diagnostiquer et les traiter précocement et les traiter correctement précocement. Quand on détecte une tumeur cérébrale, c'est souvent une imagerie. Il faut compter quelques semaines, 2-3 semaines, voire parfois un petit mois avant d'avoir toutes les données qui permettent d'avoir un traitement personnalisé de la tumeur. Et là, l'objectif, en fait, c'est d'avoir dès l'imagerie un outil qui nous dit on pense que cette tumeur, c'est telle tumeur avec telle caractéristique génétique. Et donc, le traitement adapté pour ce patient, c'est ce traitement-là. Et de faire quand même toute la démarche de diagnostic standard pour confirmer ce qu'on est en train de dire, mais de pouvoir mettre en place dès le début le traitement le plus personnel possible pour le patient. En fait, c'est de faire ce qu'on appelle une biopsie virtuelle, et l'étape d'après, c'est même créer un jumeau numérique, c'est-à-dire créer le jumeau de cette tumeur, le jumeau de ce patient, et de pouvoir tester les traitements en dehors du patient, c'est-à-dire traiter par ordinateur les traitements et de se dire le traitement qui marche théoriquement le mieux sur cette tumeur, c'est celui-là, et donc c'est celui-là qu'on va donner au traitement. Et donc c'est ça l'impact qu'on attend de cette recherche. Donc c'est tout le domaine du jumeau numérique et de la biopsie virtuelle.
Ces trois projets distincts portés par Guillaume Davy, le docteur Camille Evrard et le docteur Xavier Leguillou sont soutenus par Sport et Collection pour cette 30e année de manifestation. En 29 ans, c'est donc 6 millions d'euros qui ont été reversés par l'association Sport et Collection au CHU de Poitiers. En 2023, un montant exceptionnel de 470 000 euros a été remis au CHU et il a permis de répondre au financement des projets de recherche, mais aussi à l'achat de matériel médical, des dons nécessaires à la poursuite de la recherche. Jean-Pierre Doury, le président de Sport et Collection, a affirmé sa motivation à toujours faire mieux pour l'hôpital et la recherche contre le cancer.
Pour moi, ce n'est pas, comme je le dis, une ligne d'arrivée, mais c'est une ligne de départ. Une ligne de départ vers les 40 ans, parce qu'on veut faire toujours de mieux en mieux et donner toujours de plus en plus à notre hôpital.
Alors si vous aussi, vous voulez soutenir la recherche contre le cancer au CHU de Poitiers, venez découvrir ce rassemblement unique en France où plus d'un millier de véhicules de prestige et plus de 500 Ferrari seront rassemblés au circuit du Val-de-Vienne. La manifestation commence ce jeudi 30 mai, se clôture dimanche 2 juin. N'oubliez pas de prendre vos billets sur le site internet de Sport et Collection et rendez-vous sur le circuit.
La journée internationale du vivre ensemble en paix est célébrée chaque année le 16 mai, une journée qui s'est déroulée il y a quelques jours donc et qui vise à promouvoir la paix, la tolérance, l'inclusion et le respect mutuel entre les individus, quelles que soient leurs origines, leurs croyances ou leur culture. Pour échanger sur cette thématique et dans le cadre de notre partenariat avec l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales, nous recevons aujourd'hui Karine Chatry-David et Véronique Villeneuve de l'association de la Confédération syndicale des familles de la Vienne. Bonjour.
Bonjour. Bonjour. Donc à la CSF, nous travaillons pour le mieux vivre ensemble depuis plus de 50 ans. C'est une notion essentielle dans une société multiculturelle comme la nôtre. Nous travaillons dans les quartiers prioritaires de la ville et encore plus aujourd'hui où de plus en plus de personnes sont en grande précarité financière, sociale, numérique et isolées, notamment à cause de leurs différences, qui peut être la culture, la nationalité, le handicap, la vieillesse et la liste est encore plus longue.
On le comprend, il est important de reconnaître et de célébrer la diversité qui nous entoure. À la CSF, comment vous travaillez au mieux vivre ensemble ?
Alors, lors de nos permanences, les familles sont écoutées et entendues. Ainsi, nous sommes informés de leurs difficultés et mutuellement, nous pouvons aider nos citoyens et agir avec eux. On mène des actions pour donner aux familles les moyens d'être actrices de leur vie et d'exercer leurs responsabilités éducatives, sociales, économiques.
Quelles sont concrètement vos actions ?
Alors, c'est des actions sur le partage, la convivialité et l'échange. Nous avons deux gros secteurs d'activité qui sont basés sur le partage et la convivialité. La papothèque, d'abord, tous les mardis, au 60 rue de Slovénie, dans nos locaux, échange autour de paroles, de douceur, des cafés, des thés, des petits gâteaux, où se rencontrent souvent les broyés du Poitou et les cornes de gazelle, et les personnes de toutes cultures et horizons différents. L'échange apporte la connaissance de l'autre et donc repousse la peur. Et le deuxième secteur, c'est notre bourse aux vêtements. Donc nos adhérents, de tout horizon confondu, peuvent vendre ou acheter des vêtements. Alors jouer des tout petits prix sont exercés à cette bourse et de toute façon, ça ne peut créer que du lien social.
Et surtout, nous comptons beaucoup sur notre nouvelle mission, notre nouvelle activité, la parentalité. Bon, c'est large. Nous avons commencé à aller à la rencontre des familles en sortant table, chaises, thé et café. Le but étant d'aller vers et rencontrer les différentes familles pour prendre en compte leurs questionnements, leurs demandes et difficultés, pour travailler sur la mise en place de dispositifs et trouver ensemble des solutions pour avancer. Avec nos différences qui finalement nous enrichissent. L'idée est également, lors de ces différentes rencontres, de souligner l'importance du dialogue interculturel et de l'éducation à la diversité afin de favoriser une meilleure compréhension et acceptation des différences.
La Journée internationale du vivre ensemble en paix est l'occasion de réfléchir sur nos propres attitudes et comportements envers les autres.
Cette journée vient nous rappeler tout le travail qui reste à mener pour préserver la paix et la non-violence, qui aboutissent à un mieux vivre ensemble. Ce devrait être la raison d'être de chacun, notamment à travers nos biens communs que sont l'éducation, l'information et la culture.
Ça devrait être l'occasion pour toutes et tous d'exprimer notre désir profond de vivre et d'agir ensemble, unis dans la différence et dans la diversité, en vue de bâtir un monde vivable reposant sur la paix, la justice et la solidarité humaine.
En fin de compte, cela nous rappelle que nous sommes tous connectés les uns aux autres et que c'est en travaillant ensemble que nous pouvons construire un monde plus juste pour tous.
Merci beaucoup à toutes les deux. La Confédération syndicale des familles vous accueille au 60 rue de Slovénie à Poitiers du lundi au jeudi sur rendez-vous.
Merci beaucoup.
Merci. Merci.
On continue tout de suite avec vos idées sorties. C'est le dernier jour pour découvrir l'exposition de sculptures et peintures Non Finito. Donc, c'est au Dortoir des Moines, rue Paul Gauvin, à Saint-Benoît, une exposition de l'artiste Guy Etcheto. Sinon, on vous propose un ciné-débat sur les addictions, donc ce jeudi à 20h au Méga CGR de Buxerolles. Plusieurs partenaires organisent avec le XAPA 86 une soirée ciné-débat autour du film Tout pour être heureux de Jérôme Adam au Méga CGR de Buxerolles. Donc, premier aux Impact Docs Awards et déjà vu par plus de 13 000 spectateurs en France, le film Tout pour être heureux est inspiré de l'histoire familiale de Jérôme Adam et donne l'opportunité de parler de la parentalité et des relations familiales, de briser les silences, de soulager les blessures et de débattre sereinement de la consommation de stupéfiants et d'alcool, loin des discours stigmatisants. Donc le film dure 85 minutes et sera suivi d'un échange en présence des partenaires du territoire. À Poitiers aussi, témoignage de retour de Gaza, c'est à 18h, Action humanitaire, Hamas, CPI, CJI, Que dit le droit, avec Christophe Oberlin, de retour de Gaza. Ce sera au centre des couronneries. À 19h sur Pulsar, c'est Diva, 20h Metal Fury, et 22h, on termine la journée au coin du feu. Merci Papa Cortex, bon après-midi tout le monde.